Bonjour. C'est toujours difficile de mettre des mots sur une technique qui est avant tout pratique, puisque le principe est justement de pouvoir par le son, les sons, et en particulier les sons vocaux, exprimer ce qui ne peut pas toujours l'être par l'expression verbale. Et cette thérapie vocale est l'issue, en tout cas le fruit d'un long travail, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années de recherche, des recherches qui ont donné différentes méthodes. Bon, une méthode que j'ai conçue, la méthode La voix qui guérit. Et ces recherches ont eu pour origine mes recherches personnelles, car il y a une vingtaine, 20, 25 ans, je ne m'imaginais pas du tout être devant vous pour vous parler de sons qui harmonisent. Ce n'était pas du tout le but de ma carrière artistique au départ, puisque je suis issu du conservatoire, donc j'ai un itinéraire parfaitement classique, au conservatoire de Roubaix, puis à l'École normale de musique de Paris. En chant, en contrebasse, en musique de chambre. Mais la voix m'a très tôt intéressé parce que, d'abord, quand je suis arrivé pour la première fois devant un professeur de chant, ce professeur de chant m'a indiqué la technique, mais ne m'a pas donné de réponse à ce que j'attendais. J'étais essoufflé, je n'avais pas du tout conscience de mon corps. Et les techniques qu'on me donnait étaient des techniques d'esthétique musicale. On me disait, bah oui, le souffle, ça marche comme le soufflet d'un accordéon. Il faut tenir le souffle pour pouvoir chanter. Et moi, j'attendais autre chose, parce que le souffle, j'arrivais pas à le tenir. J'étais très vite, j'étais quelqu'un de très émotif, je le suis toujours, et ça tenait pas les sons. J'avais du mal à interpréter une œuvre. Donc un peu à la fois, parallèlement à ces études, je me suis forgé mes propres techniques. La voix m'a révélé en quelque sorte. Heureusement d'ailleurs qu'elle a pu me révéler parce que c'est vrai que ça a remplacé mon analyse en quelque sorte. J'ai été chercher au tréfonds de moi-même des émotions, un vécu, un mal-être, et tout ça s'est transformé en son. C'est transformé en œuvre musicale, puisque j'ai également beaucoup écrit dans le domaine de la chanson, dans le domaine du symphonique, etc. Donc, à l'époque, c'était une recherche purement personnelle. À un moment donné aussi, bardé de tous mes diplômes, j'ai eu envie de retourner à la source même des sons, échapper à la culture occidentale, échapper au clavier bien tempéré de cette musique occidentale. Et je me suis intéressé à l'incantation magique, au pouvoir des sons, et j'ai fait un doctorat de musicologie à Paris 8 sur l'incantation magique et le pouvoir des sons, avec des recherches donc en musicothérapie, des recherches en milieu psychiatrique en particulier, et également des recherches en pédagogie musicale, avec des enfants qui étaient des enfants mis dans des classes un peu de transit, enfin des enfants de classe sociale défavorisée ou qui ne maîtrisaient absolument pas la langue française. Donc le son, le dessin, la couleur, ce qu'on a appelé après bien sûr l'art thérapie, tout ça, mais enfin bon, était vraiment le langage. C'était le langage universel, un langage qui pouvait comprendre. Donc l'intérêt aussi j'ai longtemps travaillé aussi sur les chansons pour enfants, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai renouvelé d'ailleurs avec un CD là qui s'appelle Relaxation détente des enfants, où il y a à la fois des relaxations et également des chansons. Donc tout ça c'est une recherche personnelle. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des stages. Et ces stages m'ont apporté des expériences, toujours nouvelles, toujours renouvelées. On a beaucoup improvisé avec des stagiaires. J'ai formé des professeurs de yoga à l'École normale de yoga avec Maud Forget à Sèvres. Et puis, donc tout ça, c'était une série d'expériences multiples. Je suis également intervenu dans les instituts universitaires de formation des maîtres, justement pour apprendre aux futurs maîtres autre chose que le solfège, autre chose que cette pédagogie musicale. Alors, la pédagogie musicale a bien évolué, mais s'il y a une quinzaine d'années, on avait déjà mis en place, et non pas seulement mis des expériences pilotes concernant justement le travail de relaxation dans les écoles, relaxation par le son, par la voix, peut-être aujourd'hui on aurait pu gérer un peu plus les phénomènes de violence. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. J'ai enseigné un peu dans le secondaire aussi, et là aussi on s'aperçoit que l'art, la musique, l'éducation artistique, ça ne fait pas partie d'un projet pédagogique global. Chacun vit sa vie en quelque sorte, alors que l'acquisition de nouveaux langages, que ce soit les langues ou que ce soit la musique, eh bien c'est très intéressant justement à pouvoir constater qu'un élève va facilement pouvoir acquérir un langage musical, pour acquérir un langage au niveau de l'anglais par exemple, et va avoir des difficultés ailleurs. Donc il y a tout un travail qui doit se faire et qui ne s'est pas fait. Toujours est-il que, ayant beaucoup voyagé à travers le monde, j'ai aussi glané un certain nombre de sons, de techniques. Alors, je me suis beaucoup intéressé aux chants harmoniques, aux techniques diphoniques d'Asie centrale, où on essaiera de chanter peut-être un ou deux sons tout à l'heure, où justement on a ce matériau brut du son, c'est-à-dire un son nasalisé. On n'a pas tellement dans notre musique occidentale, dans le chant, de sons très nasalisés. On est dans l'esthétiquement beau, correct. Et ce qui nous intéresse en thérapie vocale, après cette longue introduction, c'est justement, avant d'aller vers le son, c'est d'abord d'aller vers la résonance. Qu'est-ce qui résonne en nous? Qu'est-ce qui résonne en nous? Pas simplement en parlant du son, mais qu'est-ce qui résonne en nous profondément? Quelles sont les émotions qui résonnent en nous? Notre parcours. Et la voix, le son, va nous permettre de révéler toutes ces résonances, de repartir au niveau de nos résonances osseuses. Alors bien sûr, il y a eu des travaux avant moi. Il y a eu les travaux du professeur Tomatis, il y a eu Marie-Louise Auchet qui a fait un certain travail aussi sur en particulier les gammes anciennes. Et maintenant, la voix, la thérapie par la voix est dans l'air du temps. Donc, cette thérapie vocale prend son essor. Et donc, ayant glané tous ces vocabulaires sonores, j'ai eu envie de les tester. J'ai eu envie de créer un vocabulaire qui puisse trouver sa résonance au niveau du corps. Quelles sont les voyelles qui vont résonner à tel ou tel endroit du corps? Quelles sont les syllabes énergétiques qui vont résonner à tel ou tel endroit du corps? Actuellement, par rapport à mes recherches, on a des points de similitude avec d'autres recherches sur un plan international et on a des points qui ne sont pas conflictuels, mais je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas dans les extrêmes, on sait par exemple que des résonances graves avec la voyelle « ou » par exemple, bon, eh bien, on va pouvoir travailler les résonances du bassin, on va pouvoir travailler les résonances au niveau coccygien. On sait aussi que lorsqu'on va émettre un I dans l'aigu, eh bien, on va ressentir, on le fera tout à l'heure, on va ressentir une résonance au sommet du crâne. Alors, entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a toute une série de techniques qui rejoignent la tradition où on n'est pas toujours forcément d'accord sur le positionnement de telle voyelle au niveau du corps. Mais c'est déjà important. On a le « ou », on a le « i » au sommet du crâne, on a déjà constitué en quelque sorte l'axe sonore, l'édifice sonore. Parce que une personne qui vient me voir, par exemple en séance individuelle, eh bien, j'ai envie de savoir comment elle résonne et de la mettre dans un état modifié de conscience pour qu'elle puisse, en début de séance, me sortir un son spontané. Non pas le son qui sera esthétiquement correct, non pas le son que l'on va émettre parce que, ayant peur du ridicule, on ne va pas oser émettre tel son ou tel son, non. Le son qui, intuitivement, instinctivement, spontanément, vient à nous. Et ce son qui vient à nous, ça m'intéresse parce qu'il va être émis sur une certaine fréquence. Et cette fréquence particulière, pour moi, va correspondre à quelque chose, et également la voyelle qui va être émise, la consonne peut-être qui va être émise. Si la personne, pour moi, émet un A, par exemple, c'est cette recherche de l'expression, cette ouverture au niveau du plexus laryngé. Il est évident que si elle va émettre également un M, il y a cet aspect maternant, maternel. Donc la consonne va être importante, la voyelle aussi. Donc ça, c'est qu'on pourrait appeler ce que j'appelle, moi, note personnalité, c'est-à-dire une note qui va, au fur et à mesure des séances, se retrouver. Il va y avoir une réitération de cette fréquence et on va pouvoir dire, voilà, cette personne, elle résonne sur telle tonalité, tel son, telle voyelle. Alors, cette voyelle, c'est un peu un appel. Elle a envie, par exemple, par la voyelle A, d'aller plus loin dans son expression. Et bien sûr, au fur et à mesure de la séance, qu'on ne peut pas détailler aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres voyelles qui vont être émises, il va y avoir d'autres sons. Et puis, à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y a des sons de voyelles qui ne sont pas du tout émis. Et c'est justement sur ces sons de voyelles-là qu'il va falloir aussi travailler. Donc, la voix révèle à la fois nos envies, nos potentialités, mais aussi révèle nos zones d'ombre. Qu'est-ce qui surgit de nous quand on va chanter un son spontané? Ça paraît rien, mais quand on s'immerge dans ces bains de son, eh bien, on a souvent beaucoup de surprises, des émotions qui reviennent à la surface. C'est pour cela que les premiers temps de la musicothérapie, dans les années 60, on n'utilisait pas beaucoup la voix, parce qu'on disait que la voix, c'était difficile à canaliser au niveau des émotions, et on préférait, donc à l'époque, on le fait toujours, mais une musicothérapie passive avec donc trois œuvres qui vont être choisies et écoutées donc dans un certain ordre. Donc on est passé à une musicothérapie active, mais dans ce travail de musicothérapie active, la thérapie vocale s'inscrit encore dans une autre démarche, c'est-à-dire que le patient est son propre thérapeute, en quelque sorte. Il est à la fois le révélateur et aussi la personne la plus habilitée à pouvoir aller plus loin. Alors bien sûr, il faut qu'elle soit guidée par un thérapeute, mais après, elle a des outils. La thérapie vocale permet d'avoir des outils d'autonomie par rapport à la voix. Donc, exploration de ces différentes traditions, ça passe donc du chant des voyelles qui rejoint bien sûr les chants antiques des voyelles au niveau des Grecs, par exemple, les chants pythagoriciens. Ça rejoint donc, comme j'en parlais tout à l'heure, les chants d'Asie centrale, les chants diphoniques, et également tous les chants et les sons de purification, entre guillemets, qui sont les sons taoïstes, où là, les sons taoïstes sont des sons, entre guillemets, on pourrait plutôt dire des expirations sonores, c'est-à-dire à partir de certains mouvements, de certains exercices. On va expirer un souffle, on va expirer une certaine forme d'énergie. On va peut-être faire une expérience, ça sera, je pense, plus parlant et en tout cas plus chantant. Je vous proposais donc de bien vous installer dans votre chaise et de bien... Cette installation, elle est importante parce que on doit déjà bien sentir l'équilibre entre la fesse gauche, la fesse droite, sentir qu'on est bien enraciné. Enraciné, c'est-à-dire bon, que dans les stages, on va plutôt travailler au sol, où on va sentir la résonance du sol, résonance qui est importante. Et là, bon, on va essayer de la sentir, cette résonance, avec à la fois le positionnement des orteils, des talons, sentir comment ce lieu résonne, ce sol résonne, et également sentir qu'il y a donc une résonance qui monte le long des membres inférieurs et qui s'installe au niveau du bassin, dans toute la zone abdominale. Donc, on peut, pour bien visualiser cette zone abdominale, fermer les yeux et sentir que le souffle, naturellement, trouve son creuset, son énergie vitale dans cette zone abdominale, non pas simplement dans la zone abdominale, mais comme si on pouvait imaginer une sphère transparente qui reposerait sur le bassin et qui augmenterait de volume sur chaque inspiration et qui diminuerait de volume sur chaque exhalaison. Je vous propose déjà de sentir ce flux et ce reflux de l'énergie vitale, de sentir que sur chaque inspiration, cette sphère transparente qui repose sur le bassin augmente de volume et que sur chaque exhalaison, cette sphère transparente revient à sa position initiale. Même si la volonté intervient de par ces explications, ensuite on laisse le corps naturellement continuer. Et si on a des difficultés à respirer au niveau abdominal, eh bien, quand on rentre chez soi, on fait un exercice allongé et on sent justement cette respiration du sommeil. Flux et reflux l'énergie vitale, mais aussi écoute, cohésion avec la respiration des autres participants qui sont dans ce lieu. On essaye un peu à la fois de respirer unitairement, de pouvoir synchroniser naturellement cette respiration. On ne respire plus que d'un seul inspire et d'une seule exhalaison. Et à mesure qu'on sent cette respiration qui s'installe, on a aussi cette sensation qu'au niveau de l'être, il y a cette construction de l'édifice et que l'on sent aussi une énergie au niveau de la colonne vertébrale, une énergie qui monte jusqu'au sommet du crâne. On se sent à la fois enraciné à la terre et en même temps suspendu vers le ciel, comme si un fil invisible nous reliait au sommet du crâne. De cette circulation de l'énergie qui prend son creuset au niveau de notre respiration du bas-ventre et qui s'étend dans tout notre corps, on peut visualiser que cette respiration naturelle, eh bien, nourrit nos organes, nos glandes, nos cellules, comme des milliards de points lumineux qui augmentent d'intensité sur chaque inspiration et qui diminuent d'intensité sur chaque exhalaison. Et à mesure qu'on est dans nos rythmes péristaltiques, qu'on est dans la musique de nos organes, de nos souffles, de nos cellules. On sent en nous s'enraciner un son qui nous vient de très loin, un son qui monte de ce sol, un son qui est enraciné au niveau de la racine du dos, au niveau du bassin, un son très grave, une fréquence très grave que l'on ne peut chanter, qui pourtant enveloppe notre zone abdominale, enveloppe nos reins, et peu à peu, cette fréquence, cette résonance, on va essayer de l'exprimer, on va essayer de la transposer, de la faire monter jusqu'à nos cordes vocales, jusqu'à notre appareil laryngé, pour pouvoir d'abord, sur un son bouche fermée, émettre en continuité cette résonance qui n'est pas forcément celle de votre voisin ou de votre voisine, et approfondir ensuite cette résonance pour sortir la voyelle qui nous vient, qui exprime ce voyage à l'intérieur de nos résonances internes. Quand vous le sentez, émettez un son bouche fermée en continu, puis ensuite, sur ce son bouche fermée, sortez la voyelle qui vous vient spontanément et approfondissez. Et inspirez profondément tous ces sons, toutes ces résonances. Inspirez par le nez et exhalez lentement. En inspirant, on peut visualiser une lumière blanche. Et en exhalant, on exhale, on expurge tout ce qui est gris, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est fardeau en nous, tension. On le fait encore une troisième fois. Et on exhale. L'importance donc d'associer la couleur et de pouvoir faire ce travail de nettoyage. On se nettoie de nos tensions et quand on chante donc ces sons, eh bien, on est à l'écoute aussi des tensions qui peuvent se produire. Est-ce que, par exemple, j'ai une douleur au niveau du plexus solaire? Est-ce que je ne dois pas, à partir de là, travailler la gestion de mon émotionnel, non seulement par les sons, par la thérapie vocale, mais aussi par d'autres thérapies? Donc, on est là, d'abord, en thérapie vocale, pour faire un état des lieux. Comment je résonne? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui sort comme son? Qu'est-ce qui ne sort pas comme son? Deuxième expérience, et là j'espère que vous serez un peu moins timide là, sur vos sons, parce que je sens une profonde attention, des résonances quasi subliminales, mais essayez maintenant d'approfondir, essayez de sortir votre voix. C'est important le travail de la voix dans toutes ces professions, à la fois au niveau psy, au niveau de la sophrologie, au niveau de tout ce qui est enseignement. Il n'y a rien de plus désagréable pour un patient que d'avoir un thérapeute qui a une voix mal placée, qui a une voix mal posée. C'est très très important, je trouve, au niveau du message que l'on peut faire passer. Et on ne triche pas avec sa voix. Ça, c'est vraiment l'une des vérités profondes de la thérapie vocale. C'est une porte ouverte, mais c'est une vérité profonde aussi. On peut éventuellement tricher avec un instrument de musique, esthétiquement parlant, esthétiquement et musicalement, ça peut être très beau. Avec la voix, on sent tout de suite si on a eu une fatigue, une tension, la voix est tout de suite différente. Je vous propose donc une deuxième expérience avec à la fois cette voyelle OU que l'on va essayer de ressentir au niveau du bassin et la voyelle I que l'on va ressentir au sommet du crâne. Alors, il n'est pas besoin d'avoir une belle voix ou d'avoir une étendue, un registre vocal très étendu. C'est là que prend tout le sens d'un enseignement quasi ésotérique où on parlait du pouvoir des voyelles, le chant des voyelles, le pouvoir des voyelles. Mais ce pouvoir des voyelles, on peut le quantifier, on peut le mesurer. On sait que si on émet une voyelle A, on va être à peu près à 2000-2400 Hz au niveau formantique, alors que si on émet un I, on va passer à 3200 Hz. Donc, par exemple, on s'aperçoit que en fonction de la voyelle que l'on va émettre, eh bien, il va y avoir une fréquence formantique, c'est-à-dire une fréquence des résonateurs, qui va être complètement différente. Là se situe le pouvoir des voyelles, donc pas besoin, dans l'expérience que l'on va faire, d'émettre le OU et le I sur deux sons différents, mais sur un même son, il va y avoir donc une différence fréquentielle entre ce OU et ce I. L'important, c'est de pouvoir enraciner ce « ou ». Je parle beaucoup d'enracinement parce que j'ai des personnes, justement, qui ont des problèmes pour canaliser leur énergie, qui ont des problèmes dépressifs, qui ont des problèmes de gestion du quotidien. Eh bien, ce son d'enracinement va pouvoir travailler leur concrétude, leur concrétisation au niveau de leur vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas de la théorie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans la pratique. Les Égyptiens disaient être juste de voix. Makrou, ça signifiait être juste de voix dans ses actes, dans son quotidien. Alors, on va émettre le son OU. Vous allez essayer de prendre un OU dans le médium ou dans le grave, comme vous le sentez, en tout cas de sentir que ce OU résonne au niveau du bassin, au niveau abdominal, la racine du dos, et vous allez maintenir ce OU et l'enchaîner avec un I et sentir que la résonance monte. Que la résonance monte le long du trajet des plexus pour atteindre le sommet du crâne. Et inversement, lorsque vous allez être sur le I, vous allez redescendre sur le OU. Faisons l'expérience plusieurs fois. Je vais vous le faire une fois quand même. On sent la série harmonique, on sent les fréquences harmoniques, on a qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce i n'est pas tout à fait un i, mais se mixe dans le ou. Donc, travail de liaison entre ces deux sons. On l'expérimente. Inspirez profondément. Chantez. Terminez toujours vos sons par un son nasalisé sur un M, de manière qu'on puisse vivre à la fois l'enracinement, l'expansion de votre voix vers le sommet du crâne, le retour à la résonance du bassin, et le M va incarner davantage l'expérience vocale, l'expérience sonore. Donc, tout ce qui est nasalisation retrouve en quelque sorte ce plan de conscience. On le refait encore une fois. Inspirez. Chantez. Qu'est-ce qu'on constate? Dans tous les mots sacrés, il y a toujours cette notion du M. On pense au OM, bien sûr, mais on peut aussi trouver des équivalents en latin, par exemple. Hein. Il y a toujours le N ou le M. C'est important, le M ou le N. Le N, c'est important aussi parce que la pointe de la langue se place au niveau de la voûte du palais, et ce n'est pas un hasard qu'elle se place au niveau de la voûte du palais. Il y a un travail qui se fait aussi au niveau énergétique. Je n'aborde pas beaucoup aujourd'hui le plan énergétique, mais ce qui est important, c'est les travaux de recherche qu'on peut faire, par exemple, sur la résonance du I au sommet du crâne et la concordance avec les stimulations au niveau de la glande épiphyse. Donc, la voix met en place par ces stimuli vibratoires, un laboratoire hormonal. Chanter, c'est également un chant des hormones. Et on dit parfois qu'on est porté par la musique, mais on est porté par la musique parce que justement, il y a toute une série de stimulations sonores, vocales qui se produisent au niveau en particulier des chaînons ganglionnaires et des glandes endocrines. Donc on a un certain nombre d'explications par rapport la thérapie vocale. Je vous propose une dernière expérience, et là je vous ai mieux entendu, c'est bien. L'expérience O et I. Alors le O, on va les mettre sur un son dans le médium. Le O, on va le sentir plus au niveau soit de la poitrine, soit du masque facial. Et par contre, le I, on va sentir que ce I monte jusqu'au sommet du crâne. En yoga thérapie, par exemple, le O, et dans la méthode la voix qui guérit, on le place plutôt dans une résonance frontale. Il y a un équivalent, bien sûr, le O et le son OM universel. Hein, bon. Donc, faisons cette expérience du O et du I, passons du O au I, et sentons également tout ce qui se passe entre le O et le I. Hein, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler cette acuité auditive, car écouter ces harmoniques, écouter ces sons vocaux, c'est d'abord écouter les autres. C'est d'abord une relation de partage, parce que avant d'entendre ces sons, avant d'entendre ces harmoniques, on entend d'abord les harmoniques des autres. Et c'est donc un acte tout à fait désintéressé, et ensuite, il y a un feedback qui se produit, et on arrive à entendre ses propres sons. Donc c'est très important, ce processus de socialisation, en quelque sorte, lorsqu'on a un groupe, de socialisation par les sons et par les sons vocaux. Faisons l'expérience, oui, et pensons bien à modifier la cavité buccale. Oui, oh, hein. Je vous le fais une fois et vous le ferez ensuite. Inspirez. Une nouvelle fois. Inspirez profondément tous ces sons. Étirez-vous, bâillez, ouvrez les yeux. Voilà ce qu'on peut tenter pour une réunion aussi informelle que la nôtre. Alors, on va ouvrir un peu le débat par quelques questions. Un micro va se promener spontanément dans la salle. J'attends donc vos questions. On pourra prolonger tout à l'heure la conversation dans le salon, puisque je serai à la table 12. On pourra continuer à parler. Alors, y a-t-il des questions sur tout ce qui a été dit, fait, tout ce que j'ai dit et beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire, parce que difficile de parler de tout.
J'ai pas pu suivre, pardon. Oui. La capacité thoracique intervient, je n'arrivais pas à suivre votre rythme dans la montée du i et après redescendre. Et tout au début, quand vous avez parlé du ou, pour moi, quand j'inspirais, c'était un u et quand j'expirais, c'était un o. Donc je sentais très bien la différence entre le u et le o. Or, vous n'avez pas parlé du tout du u.
Non. C'est vrai que le U, c'est une voyelle un peu neutre, typiquement française. En Italie, ce serait le OU. Donc, c'est un peu comme les E muets ou EU, hein, qui sont aussi des voyelles neutres. Alors, il faut échapper justement à ces termes de capacité thoracique. Ça, c'est quelque chose qui est très bloquant pour quelqu'un qui, voilà. Bien sûr que les poumons fonctionnent. Ce serait tragique. Mais faut s'imaginer que le diaphragme est comme une ombrelle. C'est poétique. Bon, c'est quand même plus poétique que la capacité thoracique, je suis désolé. Mais le diaphragme est une ombrelle qui descend, hein, sur l'inspiration. Et comme cette ombrelle descend, elle va chasser les viscères vers l'avant, donc on va avoir cette sensation justement de gonflement du ventre comme un ballon, on dit parfois. C'est pas simplement là que ça se passe dans la totalité de cette zone. Hein. Les taoïstes en parlent bien, du champ de cinabre inférieur et de l'océan du souffle, de ces résonances justement globalisantes. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à la proposition que je peux faire, il y a une transformation de cette proposition et que certaines voyelles vont sortir. Le tout, c'est de savoir pourquoi j'ai sorti telle voyelle et pas telle autre. Hein. Pourquoi je suis resté dans ce U qui est plus un U neutre par rapport à l'exercice proposé. Donc là, déjà, il y a aussi un champ d'investigation qui est très intéressant. Et c'est aussi par la modification de la cavité buccale, vous avez peut-être entendu les harmoniques qui passent. Hein. Bon, il y a une technique que j'ai développée qui s'appelle l'harmonicothérapie, où justement, on travaille sur les 16 fréquences harmoniques de la voix. Et ces 16 fréquences harmoniques nous permettent justement de stimuler des zones du corps, je pensais tout à l'heure à l'hypophyse et à l'épiphyse, qu'on ne pourrait pas stimuler avec la voix appuyée parce que ça se situe sur des octaves qui sont très très aiguës. Hein. Donc je ne vais pas rentrer dans la série harmonique parce que ce serait peut-être un peu complexe, mais on a 16 fréquences qui vont s'étaler du son fondamental que vous émettez jusqu'à 3 octaves au-dessus. Hein. Donc, travailler justement l'harmonique, qui est en quelque sorte la cellule du son, eh bien, c'est travailler la timbralité de notre voix, le timbre de notre voix. C'est travailler aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui résonne en nous? Quelles sont les musiques intérieures qui résonnent en nous? Et à quoi ça se rapporte, tout ça?
Tout à l'heure, vous disiez que le A était une voyelle d'ouverture. Le O, alors, qu'est-ce qu'il signifie, lui, quand on sort un O, d'abord?
Alors oui, je parlais du A comme voyelle d'ouverture. Dans certaines traditions, on le place au niveau du cœur, donc c'est une autre ouverture. Moi, je le place au niveau laryngé. Je le place surtout au niveau laryngé parce que je fais travailler, par exemple, avec des H aspirés, qui permet justement de rentrer le ventre pour des personnes justement qui ont du mal à projeter leur voix, qui ont des problèmes de gestion du souffle. En faisant le H, on va avoir donc cette ouverture et aussi lorsqu'on a l'examen en quelque sorte clinique de la personne qu'on a en face de nous, on voit très bien ces problèmes déjà dans la façon dont elle va articuler. Si elle a les lèvres qui sont à l'intérieur, si elle n'arrive pas à mobiliser le masque facial. Donc il y a déjà là toute une série de signes. Hein, si elle a une perte d'énergie après avoir émis des sons, si elle a une pâleur du visage, enfin on retrouve des indications qu'on pourrait retrouver en musicothérapie dans le test de Verdot-Paillès, par exemple, où on a une analyse justement de tous les une analyse clinique de tout cela. Alors pour moi, le O se situe donc au-dessus du A, donc au niveau du masque facial, au niveau frontal. Je rejoins en ça la tradition du OM. Bon, petite parenthèse dans le yoga, le OM correspond au centre ajna, et le centre ajna se trouve dans la zone frontale. Hein, voilà. Mais, par exemple, lorsque je travaille dans des instituts universitaires de formation des maîtres, je ne vais pas parler du OM, c'est souvent mal vu, mais ils chantent quand même le OM, parce qu'ils font O et ils ferment la bouche. En fermant la bouche, ils ont fait le même. Donc, ils ont fait le home. Hein. Donc, voilà. Pour dire que ce sont des sons, on parle de l'universalité du son home, mais oui, parce qu'on l'a spontanément. Hein. On a, à la naissance, un nombre de phonèmes incalculables. Et c'est après qu'il y a une réduction progressive par l'éducation de notre capacité, justement, à émettre des sons. Donc, le O, je le mets en concordance avec l'hypophyse, par exemple. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que la stimulation vocale, eh bien, je parlais tout à l'heure des sécrétions hormonales. Au niveau de l'hypothalamus, par exemple, on va avoir aussi des hormones qui vont être sécrétées, en particulier un phénomène de antidouleur, par exemple. Hein. D'autres hormones comme la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Enfin bon, il y a toute une série d'hormones comme ça qui sont très qui vont être stimulés par la voix. Enfin, c'est ce qui nous intéresse.
Merci.
Bonjour. À qui s'adresse la thérapie vocale ? À qui s'adresse la thérapie vocale ?
Oui. La thérapie vocale s'adresse à chacun d'entre nous, d'abord, parce que je pense qu'on a tous un besoin de mettre en son ce qu'on n'a pas pu mettre toujours sur des mots. Et ça permet déjà de faire le point, justement, d'une manière, parfois, on pourrait dire, non conventionnelle, par rapport à ce qu'on a engrangé en nous, hein, ce que je pourrais appeler mémoire archaïque. Les sons, ce sont comme des batteries d'énergie, et dans ces batteries, on va mettre une programmation, on va y mettre quelque chose, et ça va nous permettre d'avancer, parce que dans le chant et dans le son, ce qui est important, c'est ce qui se passe avant, la préparation, se préparer à chanter, à émettre des sons. Et c'est ce qui va se passer après, le prolongement de chaque son. Comment je vais me sentir après une séance ? Est-ce que les nuits suivantes, il va y avoir des rêves, par exemple ? Est-ce qu'il va y avoir la résurgence d'une situation passée ? Tout ça, ce sont des révélateurs. Donc forcément, la thérapie vocale s'adresse à chacun, chacune d'entre nous, et sur un plan plus spécialisé, à toute une série de pathologies. Donc, c'est à la fois, il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, par rapport à des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Bon, on a, en les faisant simplement chanter des chansons, hein, eh bien, il y a justement la résurgence d'une mémoire qu'on pensait définitivement perdue. Donc, il faut rappeler aussi tout le travail en musicothérapie, en thérapie vocale, par exemple en préopératoire, on sait que le son, les sons vocaux permettent d'être beaucoup plus relaxés, il y a nécessité d'avoir moins d'anesthésie, par exemple, il y a moins de saignement. Enfin bon, on a fait toute une série de, j'allais dire, d'études, on le sait ça maintenant, c'est... Voilà. Donc, c'est à la fois pour chacun d'entre nous et aussi pour des thérapies particulières. Alors, en chant prénatal, bien évidemment, hein, en chant prénatal, résonance du bassin, associer le mouvement au son. Hein, on peut faire pratiquer justement des sautillements. Et ce qui est intéressant en chant prénatal, c'est que justement, la future maman a des résonances graves, elle peut expérimenter des résonances graves qu'elle n'aura plus par la suite. Et ça, c'est très, très important. Donc, quelqu'un qui, habituellement, a des problèmes de souffle, par exemple, eh bien, justement, par ces résonances graves supplémentaires, va pouvoir vraiment prendre conscience de cela. Et j'associe aussi la voix, c'est la voix de la mère, mais c'est aussi la voix du père. Hein. Moi, je fais mettre, par exemple, un bol chantant tibétain sur le ventre de la mère. On peut aussi projeter, le père peut aussi projeter des sons. Hein. Donc ça rejoint aussi tout le travail qu'on peut faire en aptonomie, enfin, tout un travail qui est complémentaire. Donc le champ est très large. Plus de questions. Une dernière et...
Vous avez dit tout à l'heure, le patient est son propre thérapeute.
Oui.
Comment le patient peut-il travailler avec tout ce qui surgit de lui-même par rapport au son ? Vous avez parlé de ces sons qui sont reliés à des émotions, ces émotions qui ramènent à des expériences vécues, à des choses plus ou moins bien vécues. Lorsque tout ça arrive au patient, comment peut-il être son propre thérapeute ? Quel outil a-t-il pour savoir ce qui lui arrive et comment le travailler ?
La première chose, c'est que en général, il vient faire un bilan psychovocal où on va pouvoir lui donner des outils par rapport justement au ressenti de cette première séance. Et ces outils qui se présentent sous la forme de sons à refaire, à réitérer au fil des semaines, eh bien, il va pouvoir justement aller un peu plus en profondeur dans ce qu'il a découvert lors de la séance qu'il a faite avec le thérapeute. Et ce qui est important, c'est qu'il ait des outils d'autonomisation. Je ne dis pas qu'il va tout résoudre. À un moment donné, il prendra conscience aussi qu'il a besoin d'une aide particulière, d'aller dans un atelier d'art-thérapie, de voir un psychothérapeute. Mais il aura fait un cheminement seul. Il aura exploré vraiment ses résonances. C'est important de les explorer, je vais dire, en solitaire. L'expérience de cette solitude par rapport au son. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité d'une multiplicité des expériences. Bilan psychovocal, travail chez soi, travail en atelier. Travail en atelier, comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir mettre ensemble, être dans un bain de sons et pouvoir mettre ensemble tous ces sons. Alors bien évidemment, en ce sens, il est son propre thérapeute avec les limites que cela comporte aussi. Bien, nous allons conclure et je vous souhaite justement d'être juste de voix et de pouvoir explorer vos résonances harmoniques. Je vous remercie.
Merci.